Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est une grande habituée de notre antenne, Barbara Pola, médecin, chercheur, femme politique, galeriste, écrivain. Elle fait tout au meilleur niveau. Bonjour ma Barbara.
Bonjour Viviane.
Alors c'est toujours un bonheur de te recevoir, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de ton dernier livre, qui est le 25e livre. Et j'ai eu un peu de mal à comprendre, d'abord, t'avouerai-je la chose, j'aurais un peu de mal à comprendre comment on prononce le titre, parce qu'il s'écrit 25 os, os plus l'astragale, l'astragale étant bien sûr l'os du pied. Donc en fait, 25 os.
Alors, normalement, en français, on dit 25 os plus l'astragale, mais c'est vrai qu'à force de dire le titre et de réaliser que personne ne le comprend, j'ai commencé à faire une entorse et dire 25 os plus l'astragale et faire une entorse. Évidemment, ça nous mène directement dans l'histoire du pied, mais en l'occurrence, c'est une entorse à la langue française qui permet au moins de comprendre le titre.
Alors, l'astragale, ça se situe où dans le pied?
Alors, l'astragale, c'est l'os essentiel du pied. On pense toujours que c'est le calcanéum, le talon, mais non, l'astragale, il est au centre. Et c'est vraiment sur l'astragale que s'appuie la jambe. Et donc, l'astragale, elle nous permet de nous tenir debout dans le monde et d'avancer. Elle est la base même de notre verticalité.
Oh, merci, docteur. Ben, je rappelle que tu es médecin, avant tout, avant d'avoir fait tous ces autres beaux métiers. Et là, maintenant, je regarde la couverture de ton livre, je n'ai pas compris non plus. En haut, il y a 25, après il y a OS, on ne sait pas trop si c'est O5, un plus, L apostrophe, AS. J'ai compris seulement parce que j'ai regardé sur la tranche que c'était 25 O ou os d'astragale, l'astragale. Ma Barbara, pourquoi un titre si compliqué?
Alors en fait, c'est le titre de l'éditeur. Le titre, c'est le travail de l'éditeur.
J'avais... Ah bon, un auteur ne choisit pas son titre?
J'avais un titre. Mais
c'était quoi ton titre?
Mon titre, c'était Porter le deuil en bleu. Je porterai le deuil en bleu.
Oh, mais c'est beau, c'est beaucoup plus beau.
Mais je ne sais pas, je crois qu'il faut faire.
Si.
Non. Et j'ai fait toute confiance à mon éditeur parce que d'abord, je pensais que c'était un livre qui était impubliable. Et c'est merveilleux quand un éditeur, en fait, aime un livre, le lit, tombe amoureux, le défend, l'édite, le publie, lui trouve un titre, le défend. Quoi de plus beau pour un écrivain qu'un éditeur qui aime ce qu'on a fait? Et 25 os plus l'astragale, c'est une phrase que j'ai écrite à un endroit du livre, pas du tout mise en évidence. Et il a sorti, en fait, ce titre de mon texte. Puis c'est mon 25e livre. Et on y parle beaucoup de mots. C'est les 25 lettres de l'alphabet.
De mots M-O-T-S, hein,
de
il faut
mots
le dire.
M-O-T-S.
Un Parce peu qu'on aurait aussi... pu parler un peu des mots M-A-U-X aussi.
Oui, aussi un peu. Mais on parle surtout... Enfin, le livre est fait avec des mots. Et je travaille ces mots. Et il a choisi ce titre. Et en suis très reconnaissante. Moi, je le trouve beaucoup plus original que le mien. Et c'est vrai qu'il intrigue. Donc, le lecteur se trouve devant cet objet que je trouve aussi très beau, parce que l'objet, c'est aussi l'éditeur qui l'a fait. L'image, c'est moi qui l'ai choisie, mais...
Alors l'image, c'est une photo grisée.
C'est une photo grisée.
D'un pied.
Voilà, sur un skateboard, et au recto, c'est un pied, c'est le pied de l'artiste sur son skateboard, et au verso, c'est le pied du squelette sur le skateboard, parce qu'en fait, on parle beaucoup de mort, un peu de mort pour commencer dans ce livre.
On parle beaucoup de mort.
Oui.
Mais pourquoi?
Parce que, pourrais-je dire, j'aime la mort. Je pense qu'elle fait partie de notre vie, qu'elle est indispensable à notre existence d'être humain, que sans la mort, la vie n'existe pas, comme sans le silence, la musique n'existe pas, et qu'elle m'est essentielle.
C'est une sorte de contraire à la vie.
Oui, c'est une sorte de miroir, de continuum de la vie. Et bien sûr, comme médecin, elle m'était extrêmement présente. Et dans ce livre, elle est très présente. Et donc, l'artiste avait Sean Gladwell, qui m'a donné ses images, a fait une vidéo sur ces pieds qu'on voit sur le skateboard. Puis ensuite, tout d'un coup, c'est les pieds d'un squelette. C'est bien ça, notre vie. On a d'abord les pieds sur terre et puis à un moment donné...
Ça glisse après? Parce que le skateboard, il glisse.
Le skateboard, il glisse. Donc, c'est le mouvement. On avance et puis à un moment donné, il reste les 25 os plus l'astragale sur le skateboard.
Waouh. J'ai compris un peu mieux et j'espère que ça va éclairer surtout tous les lecteurs de 25 coups sur l'astragale. Mais alors, tu as donc parlé beaucoup de la mort, c'est vrai. Tu as parlé de la mort de diverses façons et c'est vrai que c'est léger, ce qui est très bien, parce qu'en général, quand on parle de la mort, c'est très lourd. C'est très lourd et justement, il n'y a pas de deuil dans cette mort dont tu parles.
Et c'est pour ça, je crois que, en fait, je suis si heureuse que l'éditeur ait changé le titre, parce que quand on parle de deuil, ça a un poids, ça a une lourdeur. Et la mort de celui dont je parle, notamment, hein, même si je parle de la mort en général, je parle de la mort de Jacques, et lui la voulait légère. Et son idée, c'est que la mort, c'est une parenthèse. Et non pas la vie, une parenthèse, mais la mort comme parenthèse entre la vie et la vie. Et d'une certaine façon, Stéphane Fretz, hein, l'éditeur, a permis de reprendre cette légèreté, cette indispensable présence de la mort à nos côtés, de l'absence, de cette épiphanie de l'absence aussi, d'une certaine manière, de cette absence qui est là continuellement avec nous.
Ma Barbara, juste un mot avant qu'on écoute un peu les musiques que tu as choisies. Jacques, c'est un homme aimé.
Jacques, c'est un homme aimé, c'est un homme aimé au présent. C'est pour moi un modèle, c'est quelqu'un de très important.
Alors, on reparlera de lui tout à l'heure et on écoute ce que tu nous as choisi. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme musique ?
Ne me quitte pas, peut-être, pour commencer.
On écoute.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Barbara Pola. Barbara Pola, dont chacun à Genève en tout cas sait qu'elle est médecin, chercheur, femme politique, galeriste, écrivain qui a 25 livres derrière elle. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de 25 os ou 25 os plus l'astragale. Barbara, tu y évoques beaucoup le départ de Jacques, dont tu viens de me dire que c'est un homme aimé.
Oui, Jacques Coulet, peintre, tétraplégique depuis l'âge de 6 ans, que j'ai rencontré pendant les dernières années de son existence. Un homme d'exception, jamais une plainte, toujours autonome, qui disait, alors qu'il savait qu'il était en train de mourir d'un cancer du côlon, qui dans une vidéo dit « Mais qui, comme moi, a eu la chance de pouvoir peindre pendant 30 ans ?» Alors, quelqu'un qui est tétraplégique et qui peint avec la bouche ou avec les roues de sa chaise roulante, vu qu'il a inventé cette nouvelle manière de peindre, et qui est capable de dire ça, non pas avec les mots, mais avec son existence, quelqu'un qui ne se plaignait jamais, quelqu'un qui, dans sa ville, Niort, une ville de l'ouest de la France, était celui chez qui on allait quand on avait un problème, quand on avait besoin de se faire consoler. Alors, cet homme-là, oui, il est mon modèle, il est un peintre d'exception qu'on a appelé Pictor Maximus parce que la peinture était pour lui une telle nécessité qu'il n'a jamais arrêté de peindre. Et imaginez quelqu'un en chaise roulante qui invente la peinture avec les roues de sa chaise roulante qui deviennent son pinceau et qu'il appelait la chaise de l'utopie.
Alors, c'est de l'utopie, c'est du fictif, ou tu as véritablement des œuvres de lui dans ta galerie, elles ont été peintes avec des roues?
Alors, j'ai très peu d'œuvres de Jacques parce que l'essentiel de son œuvre a été donné à la Fondation de France à son décès. Mais j'ai quelques œuvres qu'il a peintes pour moi juste avant de mourir et qu'il a peintes en bleu, lui qui peignait essentiellement avec le noir et le rouge. Et ces œuvres-là, elles sont un trésor et il les a peintes avec les roues de sa chaise roulante quelques jours, quelques semaines avant son décès. Elles me sont extraordinairement précieuses. Elles sont d'une légèreté incroyable. Imaginez, vous peignez avec les roues de votre chaise roulante.
On a du mal à imaginer parce que la couleur arrive comment dans les roues?
Alors en fait, il se faisait bien sûr aider par une assistante, Martine Oyas, artiste elle aussi, qui mettait la peinture par terre, sur une bâche, à côté des papiers sur lesquels il peignait. Et puis alors, quand la peinture est prête, Jacques avait gardé juste suffisamment de force dans le méduse de sa main droite pour actionner le joystick de sa chaise, avance et recule dans la peinture avec les roues, et puis à un moment donné traverse, en l'occurrence le papier ou la toile, et le résultat est d'une légèreté incroyable, on dirait des plumes d'un peintre japonais. C'est le bleu du ciel vers lequel il allait, et puis cette légèreté absolue qui est une leçon de chaque instant pour
Barbara,
moi.
Barbara, j'ai une question. Comment l'as-tu rencontré?
Je l'ai rencontré parce que il y a longtemps, j'avais écrit un livre sur la question du handicap. Le handicap m'a toujours intéressée parce que c'est une différence. Et qu'en même temps, le titre de mon livre, c'était « Handicap entre différence et ressemblance » parce que jamais on ne peut mettre une personne handicapée dans la case handicap. Et donc, j'avais écrit ce livre. Et Paul Arden, qui est un historien de l'art avec lequel je collabore, connaissait cet intérêt. Et il venait du même village ou presque que Jacques Coulet. Il le connaissait très bien. Et il m'a dit, il faut que vous connaissiez Jacques Coulet. C'est comme ça que j'ai rencontré Jacques. Et c'est comme ça que j'ai pu faire aussi sa première grande exposition internationale à Genève en 2011, quelques mois avant que Jacques ne meure.
Ça, c'est une grande satisfaction, j'imagine, parce que tu lui as donné une grande dernière joie. Et pour toi, qui as un œil de galeriste, un œil de détecteur de talent, parce que qu'est-ce qu'un galeriste ? C'est un détecteur de talent, quand c'est bien fait, et bien comme tu le fais.
Oui, c'était une joie immense, d'autant plus que j'ai pu se faire rencontrer Jacques Coulet et Ali Kazma, un vidéaste très connu qui a fait une vidéo sur Jacques Coulet. Et puis, j'aimerais, parce que grande est ma reconnaissance, rappeler que c'est la Réga qui a amené gracieusement Jacques Coulet de Niort à Genève et retour, que c'est l'hôtel du Rhône, le Mandarin Oriental, qui a accueilli Jacques Coulet, ses trois assistants, pendant une semaine, gracieusement, que notre amie Céline Fribourg a écrit un livre sur Jacques Coulet, elle aussi, pour l'occasion. Donc, en fait, il y avait cette sorte de chaîne de générosité, d'admiration pour Jacques Coulet, son travail qui s'est mis en route, qui continue. Et puis, le 16 décembre, au Cran littéraire à Lausanne, on va pouvoir aussi présenter ce livre, comme je le présente ici aujourd'hui aux auditeurs, avec un Jacques Coulet sur scène. Voilà.
C'est une pièce de théâtre.
Ça sera le livre, mais mise en scène, et je réfléchis à comment mettre en scène ce livre.
Alors,
grâce
je veux
à
fréquemment
en
rappeler le titre, parce que beaucoup de nos auditeurs prennent en marche les émissions, bien sûr. 25 os ou os plus l'astragale. Je voudrais revenir au livre, ma Barbara. Je voudrais revenir au livre dans lequel tu dis c'est un chemin, c'est une promenade, c'est une... On va écouter un peu de musique d'abord, et puis ensuite, je voudrais que tu m'expliques cette démarche, parce que c'est assez... On a l'impression que tu folâtres assez avec les mots.
Oui, absolument. C'est vraiment ça. Et je propose qu'on écoute le plat pays.
Avec plaisir.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne. Où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer. Le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Vous êtes avec Barbara Pola et l'Astragale, 25 os plus l'Astragale, un merveilleux petit livre. Et nous sommes en train d'essayer de comprendre ce que Barbara a voulu nous apprendre. En fait, un cheminement, un chemin. Tu dis à un moment, les pas ne sont pas attachés à leur propriétaire, ils marchent seuls dans la nuit. Et je trouve que c'est une phrase tellement belle.
Oui, j'adore cette phrase de Éric Dubois. Et en marchant ici tout à l'heure, depuis l'arrêt du tram jusqu'ici à Radio Cité, je me le disais à haute voix. Et en fait, c'est beaucoup ça ce livre. C'est m'approprier des mots, des bribes de textes, d'écrivains, de poètes, et les faire miens et les aimer. Ils tournent dans ma tête et mon rêve par rapport à ce livre, 25 os plus l'Astragale, c'est bien sûr que vous le lisiez, mais que peut-être certaines phrases, certains mots vous nourrissent comme on nourrit les citations de tant d'auteurs que je lis, mais pas le livre entier. Ça pourrait être juste une page, juste cette phrase que tu viens de dire, qui est de Éric Dubois, qui devient mienne, qui devient vôtre. C'est merveilleux quand on marche, cette idée que les pas ne sont pas attachés à leur propriétaire. Quel propriétaire d'ailleurs, quel pas. Ils avancent tout seuls. Et voilà, le livre, il s'est construit beaucoup comme ça. Et avec la musique des mots, la sonorité, les lettres, l'Astragale, c'est pas non plus par hasard, c'est un mot qui a trois A comme Barbara, et j'aime la lettre A, et donc voilà, le mot et le livre, il est construit avec la musique des mots.
C'est une promenade, dis-tu, c'est un cheminement. Quand tu l'as commencé, tu as pensé à quoi?
Quand j'ai commencé, j'ai pas pensé à un livre. J'ai écrit au fil des jours, au fil des nuits, beaucoup, au fil des moments. Et puis, petit à petit, ça a pris corps comme un livre. D'abord, c'était un texte court et ça s'est, voilà, c'est devenu un livre vraiment au fil des jours, au fil de ma propre promenade dans ma vie. Ce livre parle probablement plus de moi que les 24 précédents. Voilà, il s'est fait comme ça.
Il a grandi tout seul un peu. C'est l'impression qu'on a.
Il a grandi tout seul et c'est aussi pour ça, je crois, que j'avais cette idée que c'était un livre impubliable parce qu'il parle de moi. Mais en fait, en parlant de moi, il parle des autres, de tous ces autres que je lis, de tous ceux que j'aime et donc de ceux qui, peut-être, je l'espère, vont le lire et le faire sien aussi.
Alors, tu écris à un moment, les larmes font perdre le goût des baisers. Ça aussi, c'est une phrase ravissante.
Oui. Et je crois que c'est vrai, et c'est pour ça que la mort doit être prise avec légèreté pour que les baisers gardent leur goût, que la vie garde sa place. Et c'est ce que Jacques, d'une certaine façon, m'a enseigné. Et il est là, il est présent, et les baisers gardent leur goût.
C'est joli, c'est très joli. Et alors pourquoi les allées bleues ignorent les humains?
Ça, c'est aussi, c'est une musique qui est venue dans mon esprit, dans ma tête, qui a tourné. En fait, en regardant une pièce de théâtre de Anne Bizang, lorsqu'elle était à la Comédie, donc ça remonte à très très loin. C'est des mots qui, comme la poésie, vous viennent sans qu'il y ait d'idées ou de réflexion. Mais j'aime cette idée des allées bleues. Le bleu est très présent dans le livre, la raison pour laquelle je pensais l'appeler à un moment donné, je porterai le deuil en bleu. Yves Klein est présent, les corps bleus, Jacques qui, à la fin de sa vie, pour la première fois, peint en bleu, le bleu qui est cette couleur quand même de l'éternité, c'est le ciel.
Et donc, mais le bleu Klein, c'est un bleu foncé, moi j'imaginais plutôt un bleu clair, parce que le bleu du deuil au Moyen-Âge, c'est un bleu clair.
Oui, et d'ailleurs, le bleu de Jacques, c'est un bleu clair, mais les bleus se fondent
les
uns dans les autres, on va dire, c'est les bleus et pas forcément le bleu, mais c'est la couleur, même si la couverture du livre est presque argentée, la couleur à l'intérieur, je pense que le bleu est prépondérant.
Mais là, c'est un peu les bleus à l'âme par moment.
Oui, c'est les bleus à l'âme et c'est les bleus de l'âme. Et c'est le bleu de la peinture. Évidemment, quand on parle du bleu dans la peinture, même si le bleu de Yves Klein est extraordinairement intense, mais on ne peut pas ne pas évoquer Yves Klein quand on parle du bleu dans la peinture.
C'est amusant parce que c'est quelque chose que tu ressens comme ça. Et pour moi, c'est un peu un procédé, au contraire, ce bleu comme ça. C'est un pigment, c'est une nuance qu'il a trouvée et dont il a fait une marque. Je dirais presque que c'est un procédé marketing pour moi.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer, par hasard, mais les choses ne sont jamais justement par hasard, mais à une époque où j'exposais à Paris le journal de Yves Klein, ce journal du dimanche, j'ai rencontré à Bruxelles celle qui fut sa première modèle. Et je présentais en fait le livre d'un autre auteur, elle est restée là, on a fait connaissance et on s'est mis à parler. Je ne sais pas, elle a dû aimer ce que j'ai dit pour rester là et vouloir me rencontrer et de parler avec elle, de parler avec l'une de ces modèles dont le corps avait servi.
Oui, parce qu'il les enduisait, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, il les enduisait de bleu.
Voilà.
Mais il a fait d'autres facéties d'ailleurs, parce que tu sais qu'il les a enfermés un jour dans la galerie, tout nus, et puis il leur a donné un breuvage qui leur a fait faire pipi. Très bleu.
Voilà.
Mais alors, je crois que c'était quand même un as du marketing, du happening.
En tout cas, ce que cette femme m'a raconté, elle a 70 ans aujourd'hui, ce qu'elle m'a raconté, le désir qu'elle a eu très vite de me montrer en fait son corps enduit de peinture bleue tel qu'il était, le pinceau d'une certaine façon de Yves Klein, comme les roues de sa chaise roulante étaient les pinceaux de Jacques Houlet, m'a fait aimer Yves Klein d'une manière différente et puis aimer la poésie aussi parce que Yves Klein écrivait très très bien, donc... J'ai jamais ressenti cette impression que tu as, mais ça, ce sont des ressentis différents. Et j'aime le bleu dans la peinture utilisée par Yves Klein, utilisée par Jacques Houlet, utilisée par un artiste avec qui je travaille, Eric Vinarteau, qui a rencontré et exposé Jacques Houlet, avec qui on a un projet sur le bleu. Donc tout ça fait partie de liens. Et ce livre est un livre qui parle des liens. Qui parle des liens entre ici et ailleurs, entre la vie et la mort, entre la peinture et la peinture, entre les mots et l'art. Et il est écrit sur la tombe de Jacques Houlet que l'art, en fait, il est là pour, d'une certaine façon, garder l'espoir.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Barbara ?
Qu'est-ce qu'on va écouter ? Et si on écoutait... Pour une surprise, Booba, le rappeur, qui parle de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, et je dirai pourquoi après.
De la graisse au placard, j'ai trop roulé ma bite. Te baisse, bâtard, viens nous sucer la bite. Procureur, si j'ai flic, ne prends pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. Le dozo, ok, je suis au stepo, ok, je suis dans le camtar, ok, je suis au dépôt, ok, je suis au star. Tu passes, mais rien ne s'efface. Omer les grosses gaffes, voilà ma déposition. Porte la dédicace, gros mur, la position. De brave, la solution. On tue le but, il mérite juste qu'on l'électrocute. Écroué, innocent comme d'hab. Enfant aux arrivants, mais y'a du shit comme d'hab. Du seum de la hiyab, pont de zèbre à Nanterre. Leur français, on le ressuscite, le réenterre. En place, c'est dans la nature. Je marche droit, longtemps, je m'enculer dans le mur, je suis hors la loi. Une cure de liberté ne fait pas reculer. L'histoire et le système ne font pas reculer. Animaux dangereux placés en correctionnel. Criminel, OMIC, phrasé non conventionnel. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bite. Je te baisse, bâtard, même si c'est la bite. Procureur, jugé flic, font pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, pas commencé. Sans la pouf, le nôtre sans la chenouf. J'arrive de ouf, je suis droit sorti du new. Moi, je suis dans ton poste comme le H dans ton poste. J'perds mon temps et mon clash, quand j'arrive live de mon clash. Oh. Quand le chat n'est pas là, les MC font du smurf, tout de malade. Ce qui manque ici, c'est les meufs et chez le malin. C'est dur à la chute vide et ma flûte, s'il te plaît, madame la. Lâche-moi, sale pute. J'ai du genre à faire, plein de comptes à régler. Pris dans le vice, dans la matrice, peux plus m'arrêter. Jusqu'encore du passé l'été, il m'en faut plus pour m'impressionner. Négro, la rue m'a sélectionné. Suspect idéal, cru et sincère. Même sur l'argent, sur son seul ma pute, sur rien sert. J'écoute le réquisitoire, 8-8-2. Si on propose de deux, suppositoire. Les deux sont des arts. Moi, j'suis une vraie histoire, pas un fantasme. Official depuis la préhistoire. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bille. Je te fais bâtard, même si c'est la vie. Je suis grave, j'ai plié, on pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. Deux autres.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Barbara Pola, dont vous savez qu'elle est médecin, chercheur, femme politique, galeriste, écrivain. C'est son 25e livre, ce 25e livre dont nous parlons depuis tout à l'heure, qui est 25 os plus l'astragale. Alors dans ce livre dont tu dis c'est un chemin, Barbara, à un moment, tout à l'heure, tu m'as dit, on va écouter quelque chose qui est complètement une rupture. Raconte.
Alors, Bouba, c'est Nanterre. C'est la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine. C'est Nanterre où j'ai le privilège en ce moment de me présenter une exposition sur le thème art et prison qui m'est si cher et est tellement important pour moi, pour qui la liberté est le fil rouge entre l'activité politique et l'activité artistique. Et Nanterre, j'y ai fait une promenade ce dimanche, tout le dimanche, pendant 8 heures. J'ai sillonné Nanterre avec Sandrine Moreau qui m'a accueilli, qui a accueilli cette exposition. Et en fait, la prison, quel lien avec 25 os plus l'astragale? C'est pas seulement la liberté, c'est pas seulement le fait que ça va être un de mes prochains livres de parler d'art et prison. C'est en fait la prison dans laquelle nous vivons, qui est celle de notre condition humaine et qui est celle de notre corps, qui est celle aussi de notre cerveau, qui est le lieu de toutes les prisons, de nos prisons sociales, de nos prisons mentales, mais qui est aussi le lieu de l'évasion, qui est aussi le lieu de l'imaginaire. Et Booba, qui a été en prison, qui aujourd'hui est un des rappeurs les plus connus, eh bien, il parle de tout cela qui m'anime, de la promenade, et puis aussi peut-être du fait de perdre pied. Et le livre, ça c'est une chose très importante pour moi dans le livre, c'est l'éloge du fait de pouvoir perdre pied. De perdre pied quand on est élu politique et qu'on l'est plus. De perdre pied quand on n'a pas ses pieds pour marcher parce qu'on est tétraplégique. De perdre pied à un moment donné parce que on rentre en prison. Et cette idée de l'éloge de perdre pied, c'est tout ça. C'est ma vie, c'est Booba, c'est Nanterre, dont je suis tombée amoureuse. Voilà.
Nanterre est une ville qui n'est pas très jolie quand même. C'est une ville qui a poussé un peu dans tous les sens, autour des rails de chemin de fer. Moi, je me souviens y avoir été étudiante, brièvement d'ailleurs, avant les événements de mai 68. Où c'est né d'ailleurs, et oui. C'est né simplement d'une révolte des garçons qui ne pouvaient pas aller dans la chambre des filles.
Absolument, hein. C'est comme ça qu'est né. Que
c'était très peu politique, et qu'après 68, ça, les partis politiques se sont greffés dessus, mais qu'au départ, c'était une révolte estudiantine, très très sexiste, et très restreinte, on va dire comme ça. Mais qui s'est enflammée dans cet endroit qui était surtout fait avec des... qui était incroyable, parce que c'était un endroit qui était fait avec des cabanes, des...
Il y a encore des traces du bidonville, mais il y a aussi le merveilleux jardin où habite Jean Potier, qui a photographié ces bidonvilles. En fait, ce qui lie pour moi Nanterre à Jacques Coulet, c'est la notion de l'utopie. C'est une ville communiste, depuis toujours. C'est une ville qui, par rapport notamment à cette exposition Art et Prison, a fait preuve, à mon égard et à l'égard des artistes, d'une ouverture extraordinaire. Et je parle d'utopie en action. Et c'est vrai que je suis très reconnaissante à Nanterre et que j'ai découvert des tas d'aspects de cette ville qui est en mouvement, qui m'ont émerveillée. Et la chaise des utopies de Jacques Coulet, cette utopie de Nanterre, moi qui étais conseillère municipale, libérale, en ville de Genève, qui expose à Nanterre dans une ville communiste, je profite parce que je suis dans un moment de ma vie où j'ai beaucoup de reconnaissance envers beaucoup de personnes, de dire merci à la ville de Genève, ville de gauche, qui a soutenu la publication de 25 os plus l'astragale, et j'ai trouvé ça extraordinaire.
Mais la culture est très rarement, et je le déplore, à droite. On ne dit pas un intellectuel de droite, on dit toujours un intellectuel de gauche, c'est bien connu.
En l'occurrence, je pense que la ville de Genève a fait, oui, abstraction du fait de mon goût de la liberté, au contraire, a peut-être intégré ce goût-là pour soutenir ce livre qui n'est certainement ni de droite ni de gauche, qui est un livre d'amour.
Mais les idées ne sont ni de droite ni de gauche, c'est l'utilisation qu'on en fait.
Oui.
Et là, les politiques ont besoin d'avoir, comment dirais-je, d'avancer avec une armure, masquée. Ils s'inventent des personnages. Parce qu'il y a un célèbre restaurant à Paris, que je ne citerai pas, dans lequel les hommes politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche déjeunent fort cher, pour fort cher d'ailleurs, et montrent qu'ils sont, pour les initiés, en très bonne intelligence, grande camaraderie et grande sympathie. Ils ne se disputent que sur les plateaux de télévision. Et ça, cette espèce d'omerta, personnellement, mais assez désagréable.
Oui. Eh bien, c'est au-delà de cela, et au-delà, disons, de ce type-là de politique, quand la politique ou le politique est là au soutien de la culture, et de la culture, effectivement, qui n'a pas de bord de droite ou de bord de gauche, pour moi, c'est toujours un émerveillement et une reconnaissance. Et c'est drôle qu'en ce moment, je sois... drôle, c'est amusant que la publication de mon livre soit soutenue par ma ville que j'aime et que cela m'honore, et que mon travail en fait de galeriste soit soutenu par la ville de Nanterre.
Barbara, les gens intelligents ne peuvent que soutenir la culture.
Ça, oui, là nous nous retrouvons totalement, Viviane.
Et Radio Cité Genève, tu le sais bien, est quand
absolument
même très centrée
sur la culture.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Eh bien, je propose qu'on écoute vers le bout de la promenade, l'été indien.
Avec plaisir.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Radio Cité Genève, votre radio à Genève.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Barbara Pola, venue nous parler de son 25e dernier livre qui est 25 os ou os plus l'astragale. Barbara, il y a dans ce cheminement que nous faisons ensemble pour découvrir ce livre, il y a quelque chose que je voudrais évoquer. Tu parles du manque comme une amputation. Et tu dis aussi un peu plus loin quelque chose auquel je crois personnellement énormément, notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Oui, quand on aime quelqu'un et qu'il n'est pas là, c'est une amputation. Et la phrase que tu cites, c'est la phrase de Stieg Dagerman, c'est le titre d'un tout petit livre de 12 pages. Et en fait, l'amputation, perdre pied, ne pas pouvoir marcher, cette idée du manque de quelqu'un, de qui nous manque toujours quelque chose, elle est pour moi fondamentale dans l'existence. Je crois qu'on est constamment à la recherche de quelque chose, à la recherche de quelqu'un, à la recherche fondamentalement de nous-mêmes. Et c'est vers moi-même aussi que je me promène à travers ce livre. Et la consolation, le chagrin de ne pas avoir ce dont on rêve, ce qu'on souhaite, il est constant en chacun de nous. Le fait d'avoir perdu quelqu'un, le fait d'être inconsolable et ce besoin de consolation impossible à rassasier, Tout ce que j'espère, et ce que j'écris d'ailleurs à Stieg Dagerman dans le livre, c'est que jamais il n'aboutisse au suicide, mais que comme dans le cas de Jacques, il aboutisse à une continuation de la vie. Et la vie, ce n'est pas seulement nous, c'est aussi la vie des autres. C'est la vie avec un grand V, et c'est elle seule qui peut nous consoler des deuils, des pertes, et des amputations et du manque.
La vie avec un grand V, ça c'est immense. Cette réflexion que tu fais là, elle me ramène toujours en fait à la religion. Parce que c'est parce que nous avons ce sentiment d'enfant perdu, d'enfant à qui quelque chose de définitif manque, que nous nous tournons vers des religions, vers les religions. Tous les hommes n'ont pas ça. Il y a des gens qui se passent parfaitement de cette référence, de cet au-delà, de cette question, et qui vivent très heureux dans un monde limité qui leur convient parfaitement, qui est un habit dans lequel ils se meuvent très bien. Mais ceux qui ressentent cette consolation jamais rassasiée, eh bien, ce sont ceux-là qui se tournent, ne crois-tu pas, vers la religion, vers un dieu ou des dieux qu'on peut appeler de diverses façons, qu'on appelle de diverses façons.
Je crois que la recherche de la religion, de la mystique, est une des voies possibles à la recherche de cette consolation. Mais je pense qu'il en est bien d'autres. Et moi, je préfère la voie de la vie, la voie de l'art aussi, de la création, parce que d'une certaine façon, nous contribuons à la création d'un monde qui ne nous satisfait pas. Quand je dis nous, c'est les artistes dont je montre les œuvres, bien sûr, mais c'est nous aussi les écrivains. Et pour moi, en fait, ce livre me fait entrer dans le monde des écrivains. C'est pour moi le peut-être le premier livre qui est celui d'un écrivain, parce que le travail des mots a été tellement minutieux, patient et long. Mais pour moi, la recherche de cette consolation, elle peut aussi être dans le fait de savoir que la consolation n'existe pas et que cela fait partie de notre condition d'humain et que c'est dans ce territoire-là que nous pouvons nous épanouir. Et c'est cette épiphanie du manque, c'est le fait de vivre la joie avec le manque. Et puis, en fait, il y a une chose dans ce livre qui, je pense, lui donne sa force, et que même mon éditeur, qui pourtant l'aime ce livre et le publie, Stéphane Fretz, n'a pas vraiment saisi, c'est qu'il y a l'amour pour Jacques, et puis il y a l'amour pour quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Mais qui se
si, c'est en filigrane, ça.
Et c'est en filigrane. Et toi, tu l'as...
Ah oui, moi, je l'ai senti très fort.
Tu l'as senti et tu l'as compris. Mais cette filigrane-là, pour moi, c'est là que se trouve...
La vie.
La vie, l'épanouissement.
Mais c'est le mot de Piaf. À chaque fois, j'y crois et j'y croirai toujours. Ça sert à ça, l'amour.
Oui.
C'est ça.
Ça sert à ça, l'amour.
Voilà. Alors, tu cites à un moment Jérôme Garcin. Jérôme Garcin, j'ai eu la chance de l'interviewer à ce micro. Tu le cites en disant « C'est l'incroyable pouvoir de la littérature qui à la fois prolonge la vie des disparus et empêche les vivants de disparaître.
Oui. »
C'est une très belle phrase.
C'est vrai. Et ce livre, pour moi, qui est un je le trouve presque comme un joyau, une boîte à bijoux, il contient la vie de ceux que j'aime et qui sont vivants et il empêche Jacques de disparaître, Jacques que j'aime et qui est mon modèle.
Bah Barbara, on arrive presque à la fin de cette émission. C'est toujours trop court avec toi parce qu'on a tellement de choses à dire, on a tellement de choses à écouter, à entendre, à partager avec toi. Ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que ce petit livre, 25 os plus l'astragale, c'est une merveilleuse promenade. C'est un intense cheminement aussi. C'est sérieux mais c'est léger. Ça va pas ensemble, sérieux et léger, ben là si. Sont les deux qualités de ce petit livre. Il est immensément sérieux. Il parle des choses essentielles de la vie, de la mort. Et puis, il est léger comme une plume. Tout à l'heure, tu as dit léger comme une plume d'un dessin japonais. Mais c'est vraiment ça. Et tu dis aussi, j'ai été, à travers ce livre, constamment à la recherche fondamentale, peut-être de moi-même. Mais je crois que chaque personne qui va le lire va être à la recherche d'elle-même. C'est le message d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce que tu voulais partager.
Oui, et à la fin du livre, je dis merci à vous lecteur, si vous êtes arrivé jusque-là, au bord de ce rivage, en direction du nord, merci.
Merci à toi, Barbara, d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc, je redis encore une fois, Barbara Pola, 25 os plus l'Astragale. Redis-moi le nom de l'éditeur.
Stéphane Fretz, Art et Fiction.
Et on remercie aussi Alexandre Jean-Renaud, qui nous enregistre derrière ses manettes et qui écoute aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que c'était grave et c'était léger. Merci Barbara, et à bientôt. Et qu'est-ce qu'on écoute en dernier ?
En dernier, on écoute Les Corons.
Avec plaisir.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh, c'était les c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons. C'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond.